Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Bus avec la classe 11 VP2 de Genolier. Aujourd'hui, nous allons vous parler des énergies fossiles. Ces énergies dites non renouvelables existaient déjà avant l'arrivée de l'homme et pourtant, elles sont toujours utilisées de nos jours.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici avec Anton. Ce monsieur vient d'Italie et est l'expert des marchés du pétrole et de son impact sur l'environnement. Bonjour Anton, comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Monsieur Anton, pourriez-vous nous dire en deux mots, qu'est-ce que c'est le pétrole ?
Le pétrole, c'est noir.
Voyons, ne divulguons pas de propos racistes à la radio. Passons aux choses sérieuses. Reprenons la première question. Je vois que vous êtes perdu. Je vais vous aider. Nous consommons 170 000 litres de pétrole par seconde. Mais c'est quoi le pétrole ? Telle est la question.
Donc, le pétrole est une énergie fossile, c'est-à-dire qui est limitée. Il est extrait du sous-sol et il est très cher. Un baril qui contient 159 litres se vend actuellement à 53 $. D'ailleurs, vous avez vu comme ce prix varie de façon spectaculaire. L'or noir, on l'appelle aussi, et grâce à elle, plusieurs pays pauvres, arides, désertiques, sont maintenant comptés parmi les pays les plus riches du monde.
Très bien, continuons. Le pétrole est de couleur noire, comme vous nous l'avez appris auparavant. Mais donc, pourquoi le fuel est-il transparent ?
J'avoue que je connais pas la réponse à cette question.
Mais quel expert vous faites ! Énorme ! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas important. Donc, où en étais-je ? Ah oui, est-ce que le pétrole, c'est nocif pour notre environnement ?
Quelle question ! Bien sûr que non ! Oui, bien sûr qu'il est nocif. Celui-là, attendez, on dit celui-ci ou celui-là ?
Vous n'êtes pas expert en français à ce que je vois. On dit celui-ci.
Merci. Donc celui-ci, vous en êtes sûr ? Bref, le pétrole produit énormément de CO2 et celui-ci crée un effet de serre autour de notre planète.
Oui, et ces gaz provoquent un réchauffement de notre Terre. Troisième question.
Attendez, j'ai pas fini.
D'accord, continuez.
Lors de l'extraction du pétrole, il est fort possible que des fuites soient présentes. Ça engendre des marées noires. Une marée noire tue les poissons, fait fondre les glaciers et détruit donc l'habitat de l'ours polaire. Moi j'aime les ours polaires. Une petite parenthèse. 1 kg de pétrole pollue 1 000 km² d'eau.
Pourriez-vous nous en dire plus sur les pays producteurs et les compagnies qui extraient le pétrole ?
Shell, BP, voici des compagnies pétrolières. Les principaux pays producteurs sont la Russie, l'Arabie Saoudite et les USA.
Quelle est l'influence économique du pétrole sur les pays producteurs ? Deviennent-ils plus riches, plus importants ? Est-ce une grande part de leur PIB ?
PIB ? Ah oui, ok. Oui, en Arabie Saoudite, les bénéfices de la vente de pétrole correspondent à plus de 23% de leur produit intérieur brut. Je pense qu'on peut le dire. C'est impressionnant. Comme je le disais avant, le pétrole a sauvé plusieurs villes et plusieurs pays de la misère et certains pays sont même devenus des pays monopoles, c'est-à-dire indispensables pour l'avancée du monde. Dubaï, Abu Dhabi et le reste de l'Arabie Saoudite sont l'exemple parfait. Dubaï est devenue l'une des villes les plus riches au monde. Tous les hommes corrompus s'y trouvent. D'ailleurs, j'y vais la semaine prochaine.
Oui, bien sûr. Très bien. Troisième question. Peut-on dire que l'homme est indépendant du pétrole ?
Non. Bien sûr que non. L'homme est complètement dépendant.
Mes sources me disent que l'homme a besoin de plus en plus de pétrole et que celui-ci pourrait commencer à manquer dans quelques années. Heureusement que plusieurs personnes, et à plusieurs reprises, commencent déjà à penser à l'utilisation d'énergies renouvelables et de laisser le pétrole de côté. Pouvez-vous me confirmer que ceci est correct ?
Bien sûr. Tout le monde le dit. Mais peu de personnes ont déjà agi. C'est effectivement un véritable problème dans notre société. Le pétrole est l'énergie la plus utilisée. Le problème est que puisque c'est une énergie fossile, elle finira un jour.
Bien, je vous remercie pour ces belles paroles. Il est temps de conclure cette émission. Nous remercions Wikipédia pour les informations et aussi notre expert corrompu pour sa participation. Son nom est Anton, moi c'est Ankylo. Bonne journée.
Ah, quel troll vous m'avez fait, haha.
Je dirais même que pétrole.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Après les intervenants qui nous ont parlé du pétrole, accueillons à présent de nouveaux spécialistes. Ceux-ci vont nous parler d'une énergie qui n'est pas très connue dans le monde, mais qui est tout de même utilisée, les gaz naturels.
Bonjour à tous, on est si...
Bah alors Kim, t'as des gaz ?
Oui, mais pas du naturel comme on va en parler aujourd'hui.
Tiens, d'ailleurs, Qu'est-ce que c'est que le gaz naturel ?
Alors, le gaz naturel est un combustible fossile qui provient des profondeurs de la Terre. C'est une énergie non renouvelable, composée essentiellement de méthane. Il est incolore et inodore.
Ce gaz est extrait des gisements naturels par forage. C'est l'hydrocarbure le plus simple qui existe dans la nature. Il est également utilisé pour la carbiochimie. On le trouve principalement en Russie, en Iran et au Qatar. Cela représente 20% de la consommation énergétique mondiale.
Mais quelles en sont les utilisations ?
Eh bien, le gaz naturel est la troisième source d'énergie la plus utilisée dans le monde, après le pétrole et le charbon, et principalement dans les secteurs suivants. Dans le secteur industriel, comme matière première pour l'industrie chimique, c'est-à-dire pour la pétrochimie et le raffinage, la production d'électricité, la production de chaleur pour la cuisson et le chauffage, et les transports. En effet, les gaz naturels pour véhicules, également appelés GNV, est de plus en plus utilisé pour les transports publics urbains, comme le bus ou les camions ben.
Et pourquoi le gaz naturel est-il si intéressant pour nous ?
Parce que tout d'abord, il est moins polluant que le pétrole et contrairement au charbon, il ne contient pas de soufre, ce qui en fait l'énergie fossile la plus écologique de toutes. C'est également l'énergie fossile qui a la meilleure efficacité énergétique.
Ensuite, il est très facilement stocké et transportable et ses réserves sont très importantes, pour l'instant en tout cas. En effet, le gaz naturel est non renouvelable. Il met des millions d'années à se former et s'épuise extrêmement vite.
Oh, c'est si dommage. Quels sont ses autres inconvénients ?
Ce gaz pollue en brûlant. Le méthane, un de ses composants majeurs, est l'un des principaux gaz à effet de serre. De plus, l'approvisionnement en gaz naturel est soumis aux aléas de la situation politique des régions productrices, au Moyen-Orient par exemple, et peut être un moyen de pression sur le plan géopolitique, par exemple la dépendance de l'Europe envers la Russie.
Et sinon, c'est quoi le gaz de schiste ?
Le gaz de schiste, ou gaz de Rochemer, est un gaz naturel exploité depuis les années 2000. Son extraction, particulièrement difficile, se fait par forage dirigé et par fracturation hydraulique à grand volume, ce qui est très coûteux.
Ah, ça a l'air génial. Et où est-ce qu'on peut en trouver ?
On trouve le gaz de schiste dans des roches marneuses ou argileuses entre 1500 et 3000 mètres sous terre.
Waouh, qu'est-ce que c'est profond !
Eh oui, ses plus grosses réserves se trouvent en Algérie, en Argentine, au Canada, en Chine, aux États-Unis et en Russie.
Et dis-moi, pourquoi on utilise le gaz de schiste ?
On l'utilise notamment pour la consommation énergétique des foyers et aussi pour augmenter les rendements des puits de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. En effet, il est principalement utilisé là-bas, ainsi qu'au Royaume-Uni, au Danemark et en Pologne.
Donc, si j'ai bien compris, à part ces quelques inconvénients, le gaz naturel présente de nombreux avantages.
Mais en parlant de mes gaz, vous pensez que je devrais aller consulter un médecin pour les miens ?
Tais-toi. Maintenant, place à la musique avec Feeling Good de Nella Simon.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom!
It's a new day, it's a new life for me.
Deux filles et une seule émission, ça risque de chauffer. Et si ça chauffe trop, ça risque de faire de la vapeur. Je les invite à prendre la parole. Mais sur quel thème, vous demandez-vous ? Sur le charbon, bien sûr.
Eh oui, aujourd'hui, nous allons vous parler du charbon. Saviez-vous que même en Antarctique, sous la glace, il y a du charbon ? Avec nous sur le plateau, il y aura Myrtille Fir, experte sur le sujet du jour. Alors, bonjour Myrtille.
Bonjour Anna. Dites-moi, que connaissez-vous du charbon ?
Eh bien, si je ne me trompe pas, le charbon passe souvent à la deuxième place, devancé par le pétrole. Cependant, il est encore très présent, notamment dans les usines ou industries. Alors, le charbon, c'est un combustible, celui des noirs, qui crée de l'énergie pour les usines ?
Mais c'est pas tout. Il résulte de la décomposition de matières végétales, animales et de leur fossilisation à la fin du paléozoïque, période préhistorique. On le récolte sous terre dans des mines.
Merci Myrtille. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux pays producteurs ?
En première place, il y a la Chine, qui est aussi le premier pays consommateur, car c'est un pays émergent. En deuxième et troisième place, il y a les États-Unis et l'Inde. D'ailleurs, Anna, savez-vous que la Chine produit près de la moitié du charbon mondial ? Mmh. Avez-vous une idée de qui pourraient être les premiers consommateurs ?
Eh bien, je suis sûre qu'il y a la Chine, car vous l'avez mentionné avant. Sinon, je n'en ai aucune idée.
Figurez-vous que la deuxième et troisième place sont à nouveau attribuées aux États-Unis et à l'Inde.
Alors Myrtille, vous êtes experte sur le sujet, ce n'est pas pour rien.
Oui, effectivement. Je possède le master en biologie fossile, un doctorat en médecine et un bachelor sur la géographie physique et sur les pierres.
Ah, d'accord. On voit qu'il y en a qui ont du temps à perdre. Donc, comme je le disais avant, vous êtes une experte et voici donc la question compliquée du public. Le charbon vaut-il toujours la peine d'être récolté en rapport gain et perte humaine ?
Pour commencer, une tonne de charbon vaut environ 448 francs, sachant que l'on produit 5 milliards 800 millions, donc nous gagnons 2 598 milliards 400 millions d'euros par année. Le charbon engendre encore des morts. Nous avons pour toute l'Europe 23 000 morts par année en moyenne, alors que la Chine possède en total de 931 morts par année. Après, votre question est plus d'une valeur morale. À chacun le droit de se faire sa propre idée sur le sujet. Enfin, une mort pour éclairer une vie. Mais pourquoi ne pas simplement vivre dans le noir, mais à deux ?
En conclusion, peu importe l'époque, la somme des morts ne change pas réellement. Effectivement, nous avons évolué et donc notre technologie est plus sophistiquée qu'auparavant. Cependant, la mort qui plane sur les mines n'est pas causée par l'imprudence de l'homme, mais par la nature simplement. Par exemple, à cause des éboulements, des inondations, des incendies ou encore des gaz toxiques qui sortent des roches. Mais passons à quelque chose de plus joyeux avec le morceau « Cheaper to keep her » des Blue Brothers. Eh bien, merci, merci et au revoir.
Au revoir.
All right, Lonnie Jr., the band, the girls and I, we're going to do a little song for you now, a little Mac Rice number. Hey, all you married men, if you're tied up, you better stay tied up, because it's cheaper to keep her.
It's cheaper to keep her. It is cheaper to keep her.
When your little girl make a cue, man,
you get an attitude and pack your bag.
Five little children that you're leaving behind, you're gonna pay some alimony or do some time.
It's cheaper to keep her.
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 See, when you get to staring that judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her.
It's cheaper to keep her.
Too much to leave that little girl.
It's cheaper to keep her.
It's cheaper. 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 Cheaper.
You didn't pay for $2 to bring the girl home. Now you better pay $2,000 to leave her alone. See another woman out there, you wanna make a change. She ain't gonna want you cause you wanna have a damn thing. It's cheaper to keep her.
It's cheaper to keep her.
Cheaper to keep her.
It's cheaper to keep her.
The time to get through looking at judge in the face, you're gonna wanna cuss the whole human race. It's cheaper to keep her.
It's cheaper to keep her.
Cost too much to leave.
It's cheaper to keep her.
It's cheaper, it's cheaper, it's cheaper, it's cheaper,
cheaper. Cheaper, 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 yeah.
Boom! Après cette musique, j'invite trois nouvelles personnes à monter sur le plateau. Je suis sûr que leur émission sera atomique. Et je parle pas d'Iski, hein. Elles sont là pour vous parler de l'énergie nucléaire. Espérons que ça n'explose pas. Je leur passe la parole.
Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en présence d'Anne-Marie De Fontaine et Jacqueline Dupuis, qui vont répondre à nos questions à propos de l'énergie nucléaire.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie nucléaire ?
Il s'agit de l'énergie contenue dans les noyaux d'uranium et de plutonium. Quand ils explosent, on appelle ça une réaction de fission. Les noyaux produisent donc beaucoup de chaleur qui transforme de l'eau en vapeur. Cette vapeur fait tourner des turbines couplées à des alternateurs.
Mais pourquoi joue-t-elle un enjeu de premier ordre dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
C'est une énergie qui permet de produire de grandes quantités d'électricité en émettant que très peu de gaz à effet de serre, mais majoritairement de la vapeur d'eau.
Pourtant, on dit souvent que le nucléaire est très dangereux.
Oui, c'est vrai que les déchets nucléaires sont très nocifs à notre santé, car ils provoquent des radiations qui peuvent causer des anomalies génétiques, maladies et bien plus. Quelconque accident avec le nucléaire peut avoir des conséquences très graves.
Est-ce une énergie renouvelable ?
Non, parce que les stocks minés d'uranium et de plutonium sont limités. On estime qu'il y a encore assez de ces matières pour une centaine d'années.
Pourriez-vous nous citer quels sont les principaux pays exportateurs et consommateurs d'uranium dans le monde ?
Les cinq principaux pays exportateurs d'uranium sont, selon les chiffres de 2014, le Kazakhstan, le Canada, l'Australie, le Niger et la Namibie. Toujours en 2014, il y a eu 56 218 tonnes d'exportation d'uranium à travers le monde en une année.
Et les cinq principaux pays consommateurs d'uranium dans le monde étaient en 2014 les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la Corée du Sud. Les chiffres étaient à ce moment-là de 55 420 tonnes d'uranium.
Merci à Jacqueline et Anne-Marie d'avoir répondu à nos questions. À bientôt, j'espère.
Et voilà, merci à tous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons vous retrouver tout bientôt pour de nouvelles chroniques. Merci beaucoup. Et passons maintenant à la chanson Someone Like You de Adele.
Couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days.
Oh.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radiobus, à la deuxième partie de l'émission sur les énergies renouvelables. Certaines de ces énergies sont récentes et nous en entendons de plus en plus parler de nos jours. Nous allons aborder les énergies hydrauliques, géothermiques, solaires et celles des océans. Les personnes que nous accueillons vont vous parler de leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. Tout de suite, parlons de l'énergie hydraulique.
Bonjour mesdames et mesdemoiselles et bienvenue sur Radiobus, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons deux invités spéciaux avec nous qui vont nous en apprendre davantage sur l'énergie hydraulique. Voici à ma droite notre invité de gauche, M. Manu Lynch, venu nous expliquer les avantages de cette énergie. Et à ma gauche, notre invité de droite, M. Jacques Blanc.
Bonjour madame, bonjour Jacques.
Bonjour.
Un deux.
Donc, pour commencer, ah oui, savez-vous que les Suisses consomment quand même, individuellement, plus de 160 litres d'eau par jour. Enfin bref, Manu, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'énergie hydraulique ?
Alors en gros, c'est une énergie produite par l'eau, comme son nom l'indique, qui fait tourner les turbines en tombant d'une certaine hauteur grâce à sa puissance. Alors ces dernières sont les plus souvent situées dans les barrages, et le plus gros avantage de celles-ci, c'est qu'elle est renouvelable.
Et pouvez-vous nous dire, Manu, ce qu'est une énergie renouvelable, s'il vous plaît ?
Eh bien, une énergie renouvelable, c'est une énergie inépuisable à quantité illimitée sur Terre.
Exactement. Bon, bien sûr, c'est très peu détaillé.
Effectivement. Je vous rappelle qu'avant de commencer ce débat, il faudrait peut-être savoir d'où vient l'eau, non ? Tout d'abord, il faut savoir que l'eau sur notre planète, c'est la même depuis des milliards d'années, environ 4. C'est donc impossible d'en créer et elle ne se perd pas. Ensuite, sur le cycle de l'eau, ce qui est très important, il faut savoir que le soleil chauffe et il chauffe l'eau. Et du coup, l'eau s'évapore. Vu qu'il fait froid et que ça va haut dans le ciel, ça fait des gouttes et des nuages. C'est pour ça qu'on ne va pas skier à la plage, parce qu'il ne fait pas très froid. Enfin bref. Ensuite, il pleut ou il neige et ça retombe sur Terre. Lorsque ça arrive sur Terre, ça va soit dans des ruisseaux, soit dans des lacs, ou alors ça peut aller dans les nappes phréatiques.
Phréatiques.
Oui, c'est bon, on a le droit de se tromper. Pour finir, l'eau retourne sous Terre, dans les lacs ou dans les océans. Et ça refait le même cycle.
Voilà, voilà. Bon, si vous avez des questions ou que vous n'avez pas totalement compris l'explication de Jacques, vous pouvez aller voir sur Internet. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, dans notre si beau pays, l'énergie hydraulique a une place si importante dans le domaine de l'électricité ?
Car la Suisse est un pays riche en eau, ayant un taux de précipitation élevé, et de plus, sa topographie permet une exploitation idéale de la force hydraulique. Il faut savoir que cette dernière est la principale source d'énergie renouvelable de notre pays, qui représente 56% de l'électricité produite en Suisse.
Et pour finir, qu'en dites-vous de cette énergie innovante pour l'avenir ? N'est-elle pas superbe ?
Mais non, mais vous êtes folle ou quoi ? Le charbon, c'est mieux. L'hydraulique, ça sert à rien. De toute façon, si on transforme toute l'eau en électricité, il n'y en aura plus. Hein. Et on fera comment pour boire ? Ce sera un autre problème. Moi, ça réfléchit là-dedans. Hein.
Mais n'importe quoi, que dites-vous ? Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'hydraulique est une énergie renouvelable, donc inépuisable. De plus, cette énergie ne pollue absolument pas.
Oui, mais la fabrication de barrages coûte très cher et ça pollue. En plus, c'est nul et c'est moche pour le paysage. Et après, on a de l'eau sale.
Stop, calmez-vous, mon sang.
Mais je suis calme.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Après l'énergie hydraulique, un autre groupe va maintenant vous parler de l'énergie thermique. On peut dire que ça va chauffer.
Bonjour et bienvenue. Nous allons vous parler d'une énergie peu connue, la géothermie. Pour ce sujet, nous serons accompagnés de deux experts, M. Moutarde Plume et Florent Blon.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est la géothermie ?
La géothermie est une énergie renouvelable et durable qui utilise la chaleur produite par la Terre pour chauffer principalement de l'eau.
Et pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ?
Il existe trois types d'installations géothermiques qui servent au chauffage. Les pompes à chaleur, les installations pétrothermales et les installations hydrothermales.
Tout cela est très intéressant. Est-ce que cette technologie peut être utilisée pour d'autres choses que le chauffage ?
Oui, en effet. Les centrales profondes peuvent aussi créer de l'électricité.
En Suisse, il existe 5 centrales de moyenne profondeur qui sont seulement utilisées pour le chauffage. Les installations que l'on utilise le plus fréquemment sont les pompes à chaleur. Quel est le principe de ces installations ?
Ces centrales captent la chaleur souterraine qui est peu profonde et qui est inférieure à 30 degrés. On envoie un liquide sous terre puis on le remonte. Une pompe à chaleur va élever sa température.
Et donc cela permet de chauffer de l'eau pour le bâtiment. Comment fonctionnent les autres installations ?
Pour les installations hydrothermales, on utilise l'eau chaude du fond des mers pour le chauffage et selon la profondeur, l'eau jaillit avec de la pression suffisamment grande pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Quant aux installations pétrothermales, on creuse des puits et l'on installe des sondes qui chauffent la roche. Puis on envoie un liquide qui remonte avec une grande température et qui permet de faire chauffer et de l'électricité.
Passons maintenant aux pays qui utilisent cette énergie. Les États-Unis sont les plus grands producteurs avec environ 25% de la production mondiale. Quels sont les autres pays principaux ?
En effet, les États-Unis sont les plus grands producteurs. Avec 10 autres pays, ils produisent près de 95% d'énergie géothermique. Donc, le reste du monde, seulement 5%. Quant au continent, l'Asie en produit le plus et l'Afrique le moins.
La géothermie est la source d'énergie principale en Islande et les États-Unis en produisent le plus. Mais qui sont les plus grands consommateurs ?
Le premier pays consommateur est aussi le deuxième pays producteur. Il s'agit des Philippines.
Et en Europe, qui en produit le plus ?
Le pays qui en produit le plus en Europe est l'Italie.
Cette énergie a bien sûr de nombreux avantages, comme le fait que c'est une énergie renouvelable, elle ne dépend pas de la météo, elle est constante et elle a une longue durée. Mais aucune énergie n'est parfaite. Donc quels sont les désavantages ?
Premièrement, elle n'est pas possible partout. Si les forages sont profonds, il y a des risques et le rendement électrique sera faible. Mais s'ils sont peu profonds, la production d'électricité est faible et la consommation sera uniquement locale.
Comparé aux autres énergies renouvelables dans le monde, où se situe la géothermie ?
La géothermie produit 1,6% des énergies renouvelables dans le monde et n'est donc pas encore très répandue. Et ce n'est bien sûr qu'une petite partie de toutes les énergies dans le monde.
Merci beaucoup pour cet entretien. C'était Moutarde Plume et Florent Pont sur le thème de la géothermie.
Au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, la chanson « On Planet Off » de Jamie Rockey.
Qui suit directement ce morceau spécial de Jimmy Rockway, une nouvelle énergie. Enfin, quand je dis une nouvelle énergie, c'est bien sûr une nouvelle présentation d'énergie. Qu'est-ce qui fait chaud dans cette salle ?
Ah, c'est clair.
L'énergie suivante est donc l'énergie...
C'est l'énergie solaire.
Bien, gamin.
Depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler de l'utilisation d'une nouvelle énergie. Il s'agit de l'énergie solaire. Pour répondre à nos questions, nous avons demandé à une spécialiste de venir. Bienvenue, Madame Kim.
Bonjour à vous tous.
Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le Soleil ?
Oui, bien sûr. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre avec une température entre 5000 et 6000 degrés. Il est composé de deux gaz, l'hydrogène et l'hélium. Cette étoile émet de la lumière et de la chaleur.
Très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'énergie solaire ?
Eh bien, l'énergie solaire, c'est l'énergie que le Soleil envoie sous forme de rayonnement sur la Terre. Il y en a 50% qui nous parvient sous forme de rayonnement sur la Terre et 50% sous forme de chaleur.
La plupart de l'énergie est concentrée sur l'équateur.
Mais maintenant, il y a une nouvelle façon d'utiliser l'énergie solaire, pour en faire de l'électricité. Pourriez-vous me renseigner sur le sujet ?
Effectivement, il existe des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
Oui, en effet, moi-même je possède des panneaux solaires thermiques. Je les utilise pour chauffer l'eau de ma maison. Je vais vous expliquer comment ils marchent. Tout d'abord, les rayons du soleil passent à travers une plaque de verre. Sous le verre, il y a une plaque noire qui absorbe les rayons lumineux pour les transformer en chaleur. Puis la chaleur est bloquée entre deux plaques, ce qui chauffe l'air. L'air chaud passe dans les tuyaux de ma maison, puis ils donnent leur chaleur à l'eau. J'ai donc de l'eau chaude gratuitement.
C'est exactement cela. La deuxième catégorie de panneaux sont les panneaux solaires photovoltaïques. Ces panneaux-ci transforment la lumière en électricité.
Intéressant. Et comment marchent-ils ?
Les panneaux solaires photovoltaïques sont faits de deux couches de silicium, un matériel semi-conducteur. Une couche chargée positivement et l'autre négativement. Quand un rayon de lumière arrive sur le panneau, il y a une rupture entre les deux couches de silicium et donc une décharge électrique.
Et est-ce que certains panneaux ont un meilleur rendement que d'autres ?
Oui, il en existe, mais malheureusement, ceux qui ont un bon rendement coûtent beaucoup plus cher que ceux avec un faible rendement.
Est-ce que certains pays les utilisent plus que d'autres ?
Oui, les pays les plus riches, comme les pays européens, le Japon, les USA, l'Australie et récemment la Chine, les utilisent. Les panneaux solaires ont beau être un moyen économique d'obtenir de l'énergie, ils coûtent très cher.
J'ai eu quelques informations comme quoi cette énergie était récente. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Cette énergie est utilisée depuis les années 2000, donc oui, c'est en effet une énergie récente.
Je vous remercie pour ces renseignements, Madame Kim. C'était très informatif et intéressant. Voici El Mismo Sol par le chanteur espagnol Álvaro Soler.
Après cette chaleureuse énergie, nous allons parler de l'énergie de l'océan.
On pourra enfin se rafraîchir.
Bonjour, comme on le vous a annoncé, nous allons vous parler des énergies des océans et de leur fonctionnement.
Bonjour. En effet, les énergies que l'on peut trouver dans les océans ne valent que peu de la production mondiale d'électricité. La question que l'on se pose souvent est, qu'est-ce que nous gagnerions à abandonner les énergies terrestres pour les énergies des océans ?
Les raisons sont multiples. De 1, les océans recouvrent 70% du globe terrestre, ce qui prouve que nous avons de la place pour exploiter ces énergies. De 2, les océans sont une ressource infinie. Et de 3, les énergies des océans sont des énergies renouvelables, donc elles ne nuisent pas à l'environnement.
Parmi ces énergies, nous allons vous parler de deux en particulier, l'énergie marémotrice et l'énergie houlomotrice, aussi appelée énergie des vagues.
L'énergie marémotrice consiste à utiliser le courant des marées alors que l'énergie houlomotrice utilise le mouvement des vagues. Toutes les deux fabriquent de l'énergie cinétique, soit de l'électricité.
Le pourcentage de la production d'électricité fabriquée par cette énergie est de 380 tonnes de watts par an et de 1,5% à 2% de la production mondiale d'électricité, ce qui n'est pas vraiment énorme. Kim, peux-tu s'il te plaît nous expliquer comment l'énergie marémotrice fonctionne ?
Les usines de cette énergie se trouvent en bord de mer. Des turbines sont installées de 15 à 25 mètres sous l'océan. L'eau passe dans ces dernières qui, grâce à la vitesse de l'eau, la transforme en électricité avec des capteurs. Et toi, Margot, peux-tu nous éclairer à propos des énergies des vagues ?
Cette énergie est particulièrement exploitée au Portugal, au Royaume-Uni et en Australie. Il existe différents dispositifs pour exploiter cette énergie. Le procédé le plus utilisé est une chaîne flottante posée à la surface de l'eau. C'est une suite de flotteurs dans laquelle se trouvent des capteurs qui transforment le mouvement des vagues en énergie cinétique.
Il existe plusieurs autres énergies, comme par exemple les éoliennes immergées que l'on trouve en pleine mer et l'énergie thermique des océans qui utilisent la température sous-marine.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr les chercher sur Internet avec les mots-clés éolienne et énergie thermique, ou bien sur les sites Wikipédia et Connaissance des énergies.
Nous vous souhaitons un agréable après-midi.
Au revoir et à bientôt.
Dans cette deuxième partie de l'émission, nous vous avons parlé des énergies renouvelables, avec les énergies hydrauliques, géothermiques, solaires et des océans. Merci et à la prochaine fois sur Radio Bus.
Radio Genolite, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.